Chapitre 12. Lorsque la porte fut refermée, la douceur de la chambre parut plus grande encore. Il y avait, sur la cheminée, deux chandeliers à ampoules en forme de flamme et à abat-jour de soie orange. Un tapis de moquette couvrait le sol. Des boîtes, des statuettes, des vases, aussi précieux que ceux des autres pièces, encombraient le dessus des meubles. Cette chambre n'avait pas été négligée, sous prétexte qu'elle ne devait servir qu'occasionnellement. À la lisière de la forêt, c'est-à-dire à 200 ou 300 mètres de la rue de Gommerie, se trouvait un café, la Cocarde, fréquenté par les lads et les domestiques. Le samedi soir et le dimanche, on y dansait. Quand la musique vient de loin, les souvenirs qu'elle éveille sont ceux de l'enfance, de soirées où nous n'avions pas la permission de sortir, cependant que sur la place retentissait la fanfare d'un cirque. Maurice l'écouta. Il aimait que les fins de couplets traînasses fissent désirer longtemps le refrain. Il se sentait prisonnier. Il aurait voulu sortir, ne rentrer que lorsqu'il en aurait envie. Il supportait difficilement la moindre contrainte. Il se mit à marcher de long en large. Il songeait à sa mère, à l'obligation où il allait se trouver, de raconter ce que son père lui avait dit, de décrire chaque geste. Il lui semblait entendre Juliette. « Qui s'est levé de table le premier? Comment la dame était-elle habillée? Ton père ne t'a-t-il pas pris par le bras ?» Il devinait déjà tous les reproches qui lui seraient faits. « Comment? Tu t'es laissé enfermer dans une chambre pendant qu'il recevait des amis? Tu as accepté cela ?» La musique s'était tue. Il ne pouvait rester immobile. Il aurait voulu partir, retourner à Paris. Il s'arrêta cependant de marcher pour regarder un vase chinois à col étroit qui avait l'air d'une porcelaine, mais qui était ce qu'on appelle un cloisonné. Il le frappa d'une chiquenaude. Un bruit métallique en sortit. Mis en goût, il examina une tabatière, puis des statuettes. Il avait pour ces objets, auxquels Simone tenait, quand ce n'était pas pour leur rareté, pour les souvenirs qui y étaient attachés, cette sorte de mépris supérieur qu'on peut avoir pour la frivolité. Il était à un âge où le besoin de posséder n'a pas encore fait son apparition. Il s'imaginait qu'il en serait toujours ainsi et il en était très fier. Il songea encore au dernier conseil que sa mère lui avait donné. « Tu ne leur dois rien. Sois digne, n'oublie pas que ton père n'a jamais cherché à te voir, mais n'oublie pas également que tu lui dois le respect. » La nuit, dans cette chambre, lui eut paru interminable. Il ouvrit la porte. L'escalier était éclairé. Il ne regarda pas les vieilles gravures anglaises pendues au mur. Elles l'eussent pourtant amusé. C'étaient les péripéties d'un combat de boxe à poings nus. Brusquement, il avait pris la décision de partir. Ce départ était un geste de faible, un geste que Charles s'apprêtait à rendre incompréhensible en l'exécutant avec une feinte bonne humeur, comme si ce geste n'avait d'autre raison que le bon plaisir. Il laissait son père perplexe dans l'impossibilité de lui demander une explication, n'osant mettre Simone au courant de ce qui s'était passé. Plus tard seulement, M. Digoin comprendrait le sens de ce départ. Bien qu'une telle façon d'agir fût dans la manière de Juliette, Maurice se doutait bien que sa mère ne l'en féliciterait pas. Elle trouverait que Charles et sa riche épouse s'en étaient tirés à trop bon compte. Dans le hall, la femme de chambre attendait la fin de la soirée, assise près de la porte d'entrée. « Vous direz à mon père que je suis partie, » fit Maurice, qui avait pensé frapper à la porte du salon et qui, au dernier moment, n'en avait pas eu l'audace. Lorsque, le chalet redevenu silencieux, Digoin apprit que son fils était parti, il éprouva un soulagement mêlé de gêne. Que dirait Simone de cette désinvolture? Bientôt, il resta seul au rez-de-chaussée. Chaque soir, il s'attardait ainsi, car cette solitude, dans la demi-obscurité, cependant qu'il entendait sa femme marcher au premier étage, était pour lui le meilleur moment de la journée. Il passait lentement du salon dans la salle à manger, de cette salle à manger dans le hall, allumant, éteignant, examinant comme l'avait fait son fils les objets se trouvant sur les meubles. Il se sentait provisoirement le maître. Pendant ce temps, Simone se préparait pour la nuit. Toute la journée, elle s'était agitée, elle avait vu du monde, sans s'accorder la plus petite pause. Au moment où elle allait passer de tant d'activité au sommeil, elle devenait différente. Sa toilette de la nuit faite, vêtue de sa robe de chambre, elle s'asseyait dans le fauteuil qui faisait face au feu. Elle demeurait longtemps ainsi, immobile. Elle ne faisait pas un examen de conscience, elle ne revoyait pas chacun de ses actes, ni ne se rappelait chacune de ses pensées. Il faut attendre que la branche soit sortie de la zone bouillonnante pour qu'elle remonte à la surface. Simone attendait simplement, peut-être plus par désir de s'endormir rapidement que par préoccupation morale, qu'elle fût redevenue elle-même, que sa vraie nature reprît le dessus. Tout était en ordre jusqu'au lendemain, et si, par hasard, elle s'apercevait alors qu'elle avait oublié quelque chose, elle disait « Tant pis, c'est assez pour aujourd'hui ». Digoin se décida à la rejoindre. Il savait qu'il trouverait une personne souriante qui, pour la première fois de la journée, le regarderait comme son mari. Il n'en éprouva pourtant aucune joie. Quand l'amour n'a pas été la raison principale d'une union, la vie qu'on s'apprête à mener ensemble paraît pouvoir se choisir. Elle se présente par portions. Ils avaient longtemps hésité entre un appartement à Paris, une villa dans le Midi, une petite ferme, une maison dans une ville de province. Finalement, le chalet de Fontbonne l'avait emporté. Il réunissait les avantages de toutes les autres vies sans en avoir les inconvénients. C'était à la fois Paris, la campagne, la province, la vie mondaine. Simone ne serait pas une inconnue dans cette petite ville, puisque sa famille et elle-même y avaient séjourné, et elle n'y aurait cependant pas les obligations d'une indigène. Charles Digoin connut enfin le bonheur. Dès le début, ce même dont il avait exercé la profession, l'agent de location, l'employé de banque, lui marquèrent de la déférence. Personne n'avait cherché à savoir d'où il venait, qui il était. Le fait d'être le mari d'une femme dont on avait appris très vite l'excellente origine lui avait permis de partager la considération dont elle était l'objet. Il avait en quelque sorte un répondant. Dans les petites villes où tout le monde est familiarisé avec la législation des traites et estime qu'elle ne saurait être différente, c'est une garantie que personne n'oserait juger insuffisante. Le bonheur de Digoin eût été parfait sans la crainte lancinante d'un événement imprévu. Charles Digoin était incapable de préciser quel genre d'événement il redoutait. Ses affaires étaient parfaitement en règle. Il ne laissait aucune dette, aucune situation compliquée derrière lui. Il était divorcé, il est vrai, mais tout s'était passé correctement, Juliette ayant poussé la dignité jusqu'à refuser toute pension de l'homme qu'il avait si odieusement outragé. Il ne lui devait donc rien, aucun arriéré, aucun solde de partage de communauté. Mais l'homme est ainsi fait qu'il lui arrive de changer non seulement d'habitude, mais de caractère, pour ne pas être soupçonné d'un acte dont le seul souvenir le fait rougir. Comme si la version qu'il donnait de l'accident dont il avait été victime était la vraie, il croyait aujourd'hui à la méchanceté gratuite de ses semblables. Puisqu'on l'avait attiré une fois dans un guet-apens, qu'est-ce qui empêchait qu'on le fît une deuxième fois? Digoin voyait réellement des dangers partout. Il était devenu d'une amabilité qui étonnait. Il tremblait qu'un jour, quelque chose ne se produisît qui le séparât de Simone, qu'elle n'apprît, par exemple, qu'il était un assassin et qu'il ne fût incapable de lui prouver le contraire. Aussi, lorsque son fils l'avait interpellé rue de Gommerie, c'est-à-dire à l'endroit du monde où il tenait le plus au respect de ses semblables, avait-il été saisi d'anxiété. Des embûches qu'il ne pouvait prévoir allaient surgir. Aucun raisonnement ne réussit à lui rendre son calme. Allait-il être séparé de Simone, comme il avait été de Juliette, sans avoir rien fait pour cela? La première fois, cela lui avait été égal. Mais Simone était une autre femme. Elle chercherait à comprendre, ce serait épouvantable. Il frappa à la porte. Comme chaque soir, Simone avait fait sa toilette physique et morale. Il devina tout de suite qu'elle considérait le départ de Maurice comme sans importance, parce que c'était de haut qu'elle s'apprêtait à examiner la situation. Ils parlèrent quelques instants de la soirée, des invités, puis Simone dit « J'aime beaucoup ton fils. J'ai été très agréablement surprise. C'est un garçon franc, sympathique, un peu timide, ce qui est charmant à son âge, à tout âge d'ailleurs. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour lui. » Comme on le voit, Simone prévenait les désirs. C'est une délicatesse, sauf quand on se trompe et que le désir qu'on prévient n'allait jamais être énoncé. Comme tous ceux qui ont rompu avec leur milieu, Simone avait su garder des amitiés puissantes. Très reposée, très détachée, elle expliquait à son mari qu'après réflexion, ce qu'elle pouvait faire de plus sage pour Maurice était non de lui donner de l'argent, ce qui n'eût servi à rien, mais de le faire pénétrer dans un monde où, en même temps qu'il se ferait une situation, il acquérait des usages, des manières, un vernis qui lui manquait totalement. Mais il fallait d'abord qu'il cessât de considérer la vie comme une course à l'argent. Il y a des gens de parfaite éducation, de très grande intelligence, qui n'ont aucune fortune et n'en sont pas moins heureux. C'était toute une éducation à refaire, tâche qu'elle aurait aimé à entreprendre. Le but que tout homme devrait viser ne doit pas être de gagner plus d'argent qu'il n'en a besoin pour vivre modestement, but rapidement atteint quoi qu'on dise, mais celui de se perfectionner intellectuellement et mondainement. Si Maurice le comprenait, Simone prévoyait qu'elle pourrait lui être d'une grande utilité. « Sinon, ajouta-t-elle, tout ce que je pourrai, ou plutôt tout ce que nous pourrons faire, ce sera de lui donner de temps en temps un billet de 100 francs. » Comme ceux qui ignorent la valeur de l'argent, il arrivait à Simone de citer des chiffres ridiculement bas. Elle passait ainsi pour avare, alors qu'en réalité, si elle avait été instruite de ce qu'il était normal de donner, elle l'eût fait naturellement.